Deuxième temps. Comment combattre la peur, les préjugés et les émotions, Jacques Toubon nous dit, avec la vérité et la raison. Bon, voyons les chiffres. Des chiffres et des faits pour combattre les idées reçues. Comme j'enseigne un peu la géographie au lycée, je suis habitué à travailler à plusieurs échelles. Dans un premier temps, ça va être les chiffres à l'échelle mondiale. Dans un deuxième temps, ça va être les chiffres à l'échelle européenne. Et dans un troisième temps, ça va être les chiffres à l'échelle française. J'ai essayé de faire rentrer toutes les idées reçues dans une même affirmation. Les migrants forment une vague qui va nous submerger. Cette vague est de plus en plus puissante. Elle est formée de clandestins qui menacent notre accès à l'emploi, notre identité culturelle et consomment nos aides sociales. Voyons si cela est vrai au regard des chiffres. À l'échelle planétaire, selon l'ONU et les deux organismes qui s'occupent des questions migratoires, c'est-à-dire l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les chiffres viennent de ces deux organismes. Nous sommes 7,6 milliards. Combien y a-t-il de migrants parmi ces 7,6 milliards entre 230 et 250 millions? La fourchette tient au fait que les clandestins ou les sans-papiers, par définition, on ne peut pas les compter à l'unité près. J'ai fait le pourcentage pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire de tête. 3%. 3% de l'humanité est migrante. Et les 97% restants ne pourraient pas les accueillir? C'est donc une infime minorité. Oui, mais c'est plus que dans les siècles passés. Mon œil, c'est moins. Le siècle de notre histoire humaine où il y a eu le plus de migrants, c'est au XIXe siècle. Qui étaient les migrants? Nous, les Européens. À cette époque-là, quel était le pourcentage de migrants? 10%. Aujourd'hui, 3% de l'humanité est migrante, au XIXe siècle, 10%. Il a fallu que les habitants des autres continents nous acceptent, plus de force que de gré, au XIXe siècle. C'était la période coloniale. Et un siècle et demi après, nous ne rendrions pas l'appareil, alors que le poids de ces migrants est trois fois plus faible. Au début du XXe siècle, il y a 100 ans, c'est 7% de l'humanité qui était migrante. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chiffre ne fait que baisser. Hélène Thioly, politiste, nous dit « Contrairement au ressenti contemporain, depuis les années 1950, les gens sont plus sédentaires qu'autrefois. » Nous sommes victimes d'une illusion d'optique très forte liée à l'accélération des autres flux de la mondialisation, les biens, marchandises, les capitaux et les touristes. Trois quarts des migrants viennent des pays du tiers-monde. Donc, un quart des migrants viennent des pays riches et développés comme la France. On ne veut pas appeler les migrants français des migrants. On les appelle des expatriés. Alors moi, je propose tout simplement que tous les migrants soient appelés des expatriés, ou alors que les professeurs qui vont enseigner à l'étranger ou les ingénieurs qui vont travailler à l'étranger, français, on les appelle aussi des migrants. Ça ne plaira pas. Pourtant, ils sont des migrants. 7 huitièmes des migrants sont des migrants légaux. Quand ils rentrent sur le pays, dans le pays dans lequel ils rentrent, ils ont des papiers en règle. Donc nous ne serons pas submergés par des migrants qui seraient tous des clandestins. Parce que seul un migrant sur 8 est un clandestin. 7 migrants sur 8 ont obtenu avant leur voyage des documents en règle du pays dans lequel ils vont rentrer. Seul un tiers des migrants du tiers-monde migrent vers un pays riche. Les deux tiers des migrants du tiers-monde migrent vers un autre pays du tiers-monde, voisin, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Sommes-nous plus égoïstes que les pays d'accueil du tiers-monde qui accueillent les migrants du pays voisin, alors que nous sommes plus riches et développés? Hélène Thiolé, dont je vous parlais il y a 2 minutes, nous dit « Pour partir loin, il faut du capital, des réseaux, des informations et de l'éducation, ce que beaucoup de migrants n'ont pas. Donc ils vont chez le voisin. » Donc, en plus, ce sont les migrants les plus faciles à intégrer qui arrivent jusqu'à chez nous. Le sociologue Didier Fassin nous apprend ceci. En 2015, un peu plus de 900 000 étrangers ont sollicité un statut de réfugié dans l'Union européenne, lorsqu'Angela Merkel avait ouvert ses frontières. La même année, la seule Afrique du Sud a vu rentrer sur son territoire 1 million de demandeurs d'asile venant du Zimbabwe. Qui en a parlé dans les médias européens? Personne. L'Afrique du Sud a accueilli 1 million de demandeurs d'asile en 2015, pendant que la quasi-totalité des pays de l'Union européenne faisait la fine bouche pour accueillir les 900 000 Syriens, Érythréens ou Soudanais. Aujourd'hui, en 2018, quels sont les deux pays qui accueillent le plus de migrants? La République démocratique du Congo et la Turquie. 4 millions pour l'un, 3 millions et demi pour l'autre. Ensuite, l'Ouganda et le Soudan du Sud, 2 millions. Le Liban, 1 million et demi. La Jordanie, 700 000. Ce sont des Syriens. 3 millions et demi en Turquie. 1 million et demi au Liban. 700 000 en Jordanie. Combien en France ? 16 500. Pour tous ceux qui pensaient qu'on en avait beaucoup accueilli depuis 2015. 16 500. Alors que la question migrants économiques ou réfugiés politiques ne se pose pas. Hein. 16 500, 2015, 2016, 2017, 2018. En 4 ans. À l'échelle européenne, nous sommes 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Combien de migrants? 20 millions. 4% de la population qui réside dans l'Union européenne est née ailleurs que dans l'Union européenne. Quelle vague submersive! Chaque année, 1,7 million de migrants venant d'un pays hors de l'Union européenne rentrent dans l'Union européenne. Il y a ensuite des migrations intra-européennes. Un migrant d'Akoa qui migre à Madrid pour son travail. Je l'appelle migrant. Il y en a 1,7 million. Ça fait 3,4 millions de migrants à l'intérieur de l'Europe. 1,7 million intra-européens, 1,7 million venant d'ailleurs. Chaque année, 2,7 millions d'habitants de l'Union européenne migrent hors de l'Union européenne. 3,4 sortent. C'est même pas ça. C'est, pardon, 1,7 million rentrent et 2,7 sortent. C'est nous qui envoyons plus d'étrangers, de gens hors d'Europe, que d'étrangers qui rentrent dans l'Europe. Pour Hélène Thiollet, il n'empêche, malgré ces chiffres-là, qu'il y a des crispations autour de l'immigration, réelles, d'ordre économique, culturel, identitaire. On ne les a pas rêvées. Nous ne percevons plus, nous, les Européens, comme une terre d'immigration, et nous avons oublié que nous étions dans le passé une terre d'émigration. Nous avons oublié que nous sommes un continent qui s'est construit par l'émigration. Certes, à partir de 2013 et 2015, l'Union européenne connaît un afflux conjoncturel supérieur aux 20 ou 30 dernières années. Mais pour elle, il ne s'agit pas d'une crise migratoire, mais d'une crise de l'asile et de l'accueil. Reprenons les chiffres. En 2015, 900 000 candidats au statut de réfugié. En 2016, 330 000. En 2017, 170 000. En 2018, 110 000. Les idées reçues, c'est peut-être qu'il y a 1 million qui rentrent chaque année comme en 2015. En 2015, 3 800 morts pendant la traversée de la Méditerranée. En 2016, 5 000 morts. En 2017, 3 100 morts. En 2018, 2 300 morts. Les États de l'Union européenne se barricadent dans une forteresse. Ils n'existent plus d'opérations humanitaires publiques. La dernière s'appelait l'opération Mare Nostrum. Elle était dirigée par l'Italie. Elle s'est arrêtée en 2016. Depuis, c'est Frontex. Ce sont les marines de guerre européennes qui patrouillent dans la Méditerranée. Qui a pris le relais? Les ONG caritatives et humanitaires. Et on leur met des bâtons dans les roues comme le bateau de l'Aquarius que j'évoquais tout à l'heure. En 2017, 10 bateaux humanitaires patrouillaient dans la mer Méditerranée. Au début 2018, 5. Début décembre 2018, aucun. L'Aquarius n'a plus de pavillon et l'Italie a porté plainte ne pas avoir respecté le fait que les vêtements des migrants repêchés n'ont pas été stockés comme il fallait et qu'il y avait peut-être des germes ou des bactéries de maladies contagieuses dans ces vêtements-là et que donc ça rentre en contradiction avec la réglementation sanitaire européenne. Début janvier 2019, deux bateaux allemands, deux bateaux espagnols patrouillent de nouveau. Le 3 mars, en début de semaine, c'est le bateau Aita Mari de Guetaria, le petit port de pêche du Pays Basque, côté de Saint-Sébastien, qui a appareillé, c'est un ancien bateau de pêche qui a été rénové, a appareillé, est parti de Bilbao. Va devoir descendre par le détroit de Gibraltar. L'ONG néerlandaise United for Intercultural Action, je ne sais pas trop parler anglais, compte depuis 1993 le nombre de mort parmi les migrants ayant voulu rentrer dans l'Union européenne. 1993, c'est lorsque la CE est devenue l'Union européenne. Et il y a un décompte annuel qui est remis à jour. De début 1993 jusqu'à mi-2018, 34 361 cadavres. 90% anonymes. Quand elle le peut, cette association essaie de refaire le parcours du migrant, de lui redonner l'identité, etc. Au mois de juin, nous aurons les quelques milliers de plus qui se seront rajoutés à ces 34 361. D'où viennent-ils, vous le savez, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est. Ça, c'était 2015-2016. Soudan, Érythrée, Syrie, Afghanistan. Plutôt par la route centrale, Libye, et puis du saute-mouton sur les îles, ou la route orientale, la Turquie, et puis après rejoindre les îles grecques. Ces deux routes sont de plus en plus contrôlées par les marines de guerre de l'Union européenne. Et la route traditionnelle, celle de la fin du XXe siècle, est redevenue la route principale depuis le début de l'année 2018. C'est la route qui passe par le Maroc, le détroit de Gibraltar et l'Espagne. Troisième temps à l'échelle de la France. Là, je prends les chiffres de l'INSEE et je suis guidé par un sociologue et démographe français qui s'appelle François Héran. Et ça va être le jeu des questions-réponses. Quatre questions, quatre réponses. Le flux migratoire qui arrive en France est-il en augmentation de manière significative? Pas vraiment. François Héran et l'INSEE montrent que depuis deux décennies, c'est-à-dire qu'ils valident les affirmations de Jacques Toubon de tout à l'heure, le courant de migration légale qui arrive chez nous est stable. Chaque année, entre 200 et 250 000 migrants rentrent avec des papiers en règle. Et 80 000 Français migrent à l'étranger. Quelles sont les motivations? Études, mariage, regroupement familial, travail et asile. Vous me direz, et les sans-papiers, combien? Quel est le stock? Entre 200 et 400 000, pas plus. Le ministère de l'Intérieur fixe la barre à 300 000. Les étrangers sont-ils privilégiés pour l'accès aux aides sociales? Franchement, non. Je le démontre. Alors, les étrangers, combien sont-ils en France? Un peu plus de 4 millions. 4,4 millions. Cela représente 6,7% de notre population. Une partie est là avec des papiers en règle et une autre pas en règle. Et les aura peut-être un peu plus tard, les papiers en règle, ou pas. Une personne étrangère en situation irrégulière ne peut bénéficier que d'une aide sociale, pas de une seule. L'AME, l'aide médicale pour les étrangers, l'aide médicale pour les étrangers. Moins que la CMU, une couverture santé limitée. Il y a des étrangers en situation irrégulière qui travaillent, pas au noir, qui travaillent avec des bulletins de salaire. Ça existe. Ils paient des cotisations sociales. Ils paient leurs impôts. Ils n'ont droit à aucune aide sociale, hormis l'AME. Mais vous me direz, une fois que l'étranger sans papier est régularisé, il a droit à tout. Une personne en situation étrangère en situation régulière n'a pas accès aux aides sociales avant une durée minimale de résidence en France. Un seul cas, le RSA, 5 années de résidence sur le territoire. Le demandeur d'asile, qui au bout d'un an de demande d'asile, obtient des papiers en règle, il devra attendre 4 ans avant de pouvoir toucher le RSA. Pour la retraite, pour avoir droit au minimum vieillesse, 10 ans de résidence sur le territoire, même en ayant les papiers en règle. Troisième question, la France est-elle généreuse et se place-t-elle en tête des pays d'accueil de l'Union européenne comme une responsable politique se plaise à l'affirmer? Assurément non. Il suffit de regarder deux types de chiffres, les chiffres absolus ou les pourcentages. Dans l'absolu, en 2017, la France est le quatrième pays de l'Union européenne qui a accordé le plus de titres de séjour, les 250 000, pour tous les motifs que je vous ai énumérés tout à l'heure. Mais donner des chiffres en valeur absolue n'a guère de sens quand ce n'est pas rapporté à la population. Si le Luxembourg en donne autant, comme il est beaucoup moins peuplé que la France, il est plus généreux que la France. Le nombre de chômeurs bruts ne veut rien dire. C'est le taux de chômage qui est important. C'est pareil, là. Sur les 28 pays de l'Union européenne, en pourcentage, nous sommes les 17e. Alors que nous avons le troisième PIB de l'Union européenne derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, peut-être le deuxième très vite. En ce qui concerne le seul statut de réfugié politique, en 2017, la France est le deuxième pays qui en a accordé le plus. Bravo ! 40 000 sur 100 000 demandes. L'Allemagne, 320 000. 8 fois plus. L'Allemagne n'est pas 8 fois plus peuplée que nous. Pour 100 habitants, l'Allemagne accorde l'asile politique à 0,39 personnes. La France à 0,06. Nous sommes 6 fois moins généreux ou 6 fois plus sévères que les autorités allemandes pour le droit d'asile. La moyenne des pays européens, c'est 0,12. Nous sommes à 0,06. Nous sommes 2 fois moins généreux ou 2 fois plus stricts que la moyenne des pays de l'Union européenne. Sûrement parce que tous les menteurs, tous les fraudeurs, tous les abuseurs et tous les profiteurs parmi les demandeurs d'asile, ben c'est en France qu'ils viennent le demander. Ça doit être pour ça. Alors, dans le passé, dernière question, avons-nous été capables d'accueillir massivement? Oui. Oui et oui. Au XXe siècle, c'est il n'y a pas très longtemps, dans les années 1920, les Français ont accueilli 60 000 Arméniens après le génocide de la fin de la Première Guerre mondiale et 400 000 Russes blancs qui fuyaient la révolution bolchévique. Dans les années 30, 800 000 Italiens qui fuient le fascisme, 500 000 républicains espagnols lors de la retirada. C'était la crise économique des années 30, là. Et on accueille 1,3 million de migrants. 16 500 Syriens en 4 ans. Dans les années 60, 700 000 pieds noirs rapatriés d'Algérie. Et à ce moment-là, 500 000 Portugais, 600 000 Espagnols vivent chez nous. Pour des raisons déjà mélangées, économiques et politiques. parce qu'il y a la dictature dans les deux pays. On pourra réfléchir sur est-il simple de trier migrants économiques et réfugiés politiques ou pas. Ils étaient les deux. François Héran ne masque pas les difficultés, il ne fait pas d'angélisme. Les réfugiés espagnols n'ont pas été chaleureusement accueillis, hébergés dans, à l'époque, ce qu'on appelait des camps de concentration. On est en 36-38, hein, du côté de la Catalogne française, du côté de Gurs, côté de Tarbes. Le taux de mortalité était important dans ces camps de réfugiés espagnols. En 62, on explique à De Gaulle qu'il faudra accueillir quelques milliers de pieds noirs. Il se récrit, nous n'y arriverons pas. Ferrand observe, nous avons pu en accueillir 700 000. Bien sûr, cela a été compliqué, les rapatriés ont beaucoup souffert, mais on l'a fait. Plus près de nous, dans les années 70 et 80. Alors que déjà 1,3 million de Maghrébins et 500 000 personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivent chez nous, nous accueillons 120 000 boat people vietnamiens, vous vous en souvenez. Didier Fassin nous rappelle qu'à l'époque, ceux-ci sont perçus de manière extrêmement positive par l'opinion. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui ouvre les frontières, un grand gauchiste, nous le savons tous. Et Fassin va plus loin, 40 ans plus tard. La société a complètement changé de regard à l'égard des boat people d'aujourd'hui, ceux qui traversent la Méditerranée. Nous semblons ne plus avoir de sympathie. À la compassion a succédé la méfiance et la répression. Pour une part, cela traduit une transformation de la situation économique, mais surtout cela révèle une nouvelle économie morale avec un changement profond de nos valeurs et de nos affects. Alors pas des nôtres. Là, le « nous », c'est la société française, ce qu'il perçoit. Mais ici, ce soir et maintenant, si nous sommes ici ensemble, c'est pour tenter de retrouver le sens de l'accueil, de l'entraide, de la solidarité, de la fraternité. Sur tout le territoire français depuis 2015, des collectivités locales, des associations caritatives ou humanitaires, de simples citoyens s'engagent au jour le jour. Sachez, mais vous le savez sûrement, que depuis le mois de juillet 2018, le risque de se retrouver dans des procédures judiciaires, alors pas pour crime, mais pour délit, le fameux délit de solidarité, nous le risquons moins quand nous aidons des migrants sans papier, grâce à une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s'agit d'un paysan de l'arrière-pays niçois, il s'appelle Cédric Héroux, qui aide depuis 3 ans des migrants à franchir la frontière avec l'Italie, et puis qui ensuite les héberge et les aide avec d'autres, bien sûr, avec des réseaux militants. Il a été traduit en justice, il a été condamné à de la prison avec sursis. Il a demandé au Conseil constitutionnel de trancher. L'État a-t-il eu raison de me condamner ? Et il a mis en avant avec ses avocats le principe de fraternité, du triptyque de notre devise. Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a écrit ceci. La fraternité est désormais un principe constitutionnel au même rang que la liberté et l'égalité. Et à ce titre, chaque citoyen français à la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Cédric Héroux, aujourd'hui, n'a plus comme menace sur lui le fait d'avoir aidé des migrants sans papier à franchir la frontière. Mais une fois que le migrant sans papier est sur notre territoire, l'aider dans le domaine de l'alimentation, du logement, des transports, de l'accès à la santé et l'aider à bâtir des dossiers de régularisation, l'État ne peut plus porter plainte contre nous si nous faisons cela.